Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, un personnage incroyable, le professeur Francis Waldvogel. Il a tellement de casquettes, il a tellement de titres, il a fait tant de choses dans sa vie. Et ce que je peux dire aux auditrices, c'est que c'est un jeune homme né en 1938 que j'ai à côté de moi aujourd'hui. Il est très mince, sportif, l'œil bleu, un bel homme. Bonjour Francis.
Bonjour.
Ça vous a impressionné que je commence comme
trop
ça?
Trop gentil pour
non,
que ça soit vrai.
C'est pas trop gentil, c'est vrai, parce que sinon je ne le dirais pas. Parce qu'après ça, on risque de vous croiser dans la rue et de dire que j'ai mauvais goût. Alors non, je ne le dis pas si ça n'est pas vrai. Je trouve absolument extraordinaire votre parcours. Alors disons-le, vous êtes professeur de médecine interne, mais surtout vous avez dirigé les deux écoles polytechniques du pays, les quatre instituts fédéraux de recherche. Je veux dire, vous avez un parcours inouï. Alors, on va être obligé de faire un tri dans toutes ces couronnes que vous portez. Et on va commencer avec la question rituelle, si vous voulez bien. Quel petit garçon étiez-vous?
Eh bien, écoutez, vous me renvoyez là de très très nombreuses années en arrière. Je vois un petit village en Suisse allemande, mais qui s'appelait Ennetbaden, parce qu'il est de l'autre côté d'une rivière qui s'appelle la Limmat. Et de l'autre côté, il y a une petite ville qui s'appelle Baden. Baden était un des hauts lieux de l'ingénierie et de l'industrie métallurgique. Mon père étant ingénieur, mon grand-père étant ingénieur, c'était normal qu'à ce moment-là, beaucoup d'ingénieurs travaillent en fait à Baden, où il y avait du reste une très belle communauté romande. Si bien que je suis né de façon totalement bilingue, en suisse-allemand, pour jouer dans la rue, et puis en bon allemand à l'école, et puis en français à la maison.
Quelle chance d'être bilingue.
C'était un immense, immense avantage dans toute ma vie par la suite, et ce qui m'a fait aussi avoir un très, très grand attachement vis-à-vis de la Suisse allemande. À qui j'étais? Au fond, j'étais un petit garçon très sage.
C'est vrai.
J'étais un petit garçon très sage. J'étais un très bon élève avec facilité, mais avec un brin de malice, je vous dirais que très rapidement, j'avais compris que j'assumais le minimum syndical scolaire.
On vous laissait la tranquille.
Alors, en fait, le minimum syndical, c'était quand même être premier de classe, parce que les classes étaient faciles à ce moment-là. Dès que j'assumais véritablement mon rôle d'être un bon élève, après ça, soit à l'école, soit à la maison, on me laissait faire ce que j'avais envie de faire.
Alors, c'était quoi ce que vous aviez envie de faire à l'époque?
J'étais une personnalité très indépendante et très autonome. Mes parents ont toujours dit, on n'a jamais eu du télicut. Pousser tout seul.
Oh, c'est bien.
C'était gentiment dit. Oui. Je me suis quand même bagarré avec eux lorsqu'il fallait vers l'âge de 16, 17 et 18 ans.
Et
comme
pourquoi,
tout le monde.
Pourquoi? Alors pourquoi ces bagarres?
Les bagarres sont venues essentiellement parce que j'avais. Mon père était un industriel très traditionnaliste, fin de guerre, croyant à toutes les vertus de la Suisse de ce moment-là. Et étant dur en affaires, mais honnête et sincère et bon, malgré tout. Et moi, j'avais une fibre beaucoup plus sociale que lui, beaucoup plus dirigée vers les inégalités sociales, etc. C'est probablement une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la médecine par la suite. Et tout ceci nous a fait évidemment dévier l'un et l'autre de nos trajectoires. Et je suis resté à ses yeux, pas assez traditionnellement, dans la ligne. Et quand je lui ai dit que, contrairement à toute ma famille, qu'elle est toujours à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, j'irai pas au Poly, mais j'irai à l'Université à Genève pour faire de la médecine, ça a été vraiment au départ un drame. Ce qui s'est corrigé beaucoup d'années plus tard quand j'ai dirigé les écoles polytechniques. Évidemment.
Ah, mais oui, là, ça c'était une sacrée revanche,
oui,
alors.
Oui.
Tout ça, ça a commencé comment? Parce que vous avez donc commencé par aller à l'école localement, j'imagine, à Baden.
Oui.
Et puis après ça, le parcours scolaire.
Ensuite, j'ai eu la chance d'aller dans un gymnase exceptionnel qui était la Kantonsschule de Aarau, qui était une école absolument fantastique, mais elle n'existe probablement plus beaucoup à l'heure actuelle, avec quelques professeurs qui ont marqué ma vie. Et depuis lors, je dis toujours, le niveau de formation qu'on donne aux gens entre 16 et 20 ans est probablement le plus important, encore plus important que l'université par la suite.
Il faut le redire ça, Francis, c'est très important.
Et j'ai mon professeur d'histoire, par exemple, qui est décédé maintenant, a essentiellement forgé ma perspective politique de toute ma vie.
C'est
en l'espace
incroyable.
De quelques années. Le professeur de mathématiques était du même genre. Il a appris la rigueur que je devais maintenir dans tous les différents domaines. Et je dirais que ces deux personnes ont probablement été les personnalités les plus importantes dans ma formation jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à ma matu. On était une petite classe. L'école était superbe. Une vieille école. Beaucoup de traditions. J'ai bu beaucoup de bière aussi. C'était très bien.
Au fond, une jolie description de cette école et de ce qu'elle vous a apporté. On va écouter un peu de musique. Alors, qu'est-ce qu'on écoute?
Bah, écoutez, pour commencer, j'ai choisi du Schubert. J'ai choisi un air qui s'appelle Herbst. Je l'ai choisi parce que la musique joue un rôle très important dans ma vie. À l'heure actuelle, on en parlera par la suite. Et je dis toujours, la musique, c'est une métaphore extraordinairement compliquée. Je veux dire, si on imite des bruits, c'est pas de la musique. Quelque part, il faut imiter plus que le bruit. Et vous allez entendre ceci qui s'appelle Herbst. Le sous-titre, c'est Es rauschen die Winde. On entend véritablement le vent dans les feuillages de la forêt.
Es rauschen die Winde so herbstlich und kalt, verödet die Flora, entblättert der Wald. Ihr blumigen Augen, du sonniges Grün, so des Lebens dahin, so welken die Blüten des Lebens dahin. Es ziehen die Wolken so finster und grau, verschwunden die Sterne am himmlischen Blau. Ach, liebige Stirne, am Himmel entflieh, so singet die Hoffnung. Tage des Lenzes mit Rosen geschmückt, wo ich die Geliebte ans Herz gedrückt, kann über den Hügel rauscht Winde dahin, so sterben die Rosen.
Vous êtes sur Radio Cité 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec le professeur Francis Waldvogel, une sommité médicale et scientifique de notre pays. Alors Francis, on vous a laissé là, petit jeune homme, et qu'est-ce qui vous a amené à choisir médecine ?
Quand j'avais, disons, 15, 16, 17 ans, j'avais plusieurs domaines qui m'intéressaient beaucoup. À un moment, je voulais devenir architecte. Ensuite, j'avais certains dons musicaux de piano. Je faisais beaucoup de piano, je faisais de l'orgue. J'adorais ce que je faisais. Et heureusement, je me suis rapidement rendu compte que pour faire une carrière en musique, il fallait d'autres dons que cela. Et au fond, je crois que je peux dire que la médecine, c'était une vocation. C'était un beau jour, tout simplement. Ça s'est imposé comme étant la profession que j'avais envie de faire.
Et que vous aviez quel âge quand ça a été très clair?
Je devais avoir 17 ans, quelque chose de ce genre-là, 16-17 ans.
Il y a quelque chose qui vous a amené à cela ou ça a été un lent processus?
C'était une évidence qui a progressé tranquillement pour devenir une évidence complète. Il n'y a plus de débat à ce moment-là, il n'y a plus de débat interne. Et puis avec assurance, on n'a pas beaucoup d'assurance à cet âge-là, mais avec d'assurance, bonjour à mes parents, j'ai dit, mais c'est ça que je vais faire. Au fond, je peux vous dire, on va voir ça par la suite, j'ai jamais, jamais, jamais regretté.
C'est magnifique. Alors, vous avez été à l'Université de Genève?
Alors, je suis terminé mon bachot, j'ai été à l'Université de Genève, j'ai commencé mes études à l'envers, parce que comme j'ai habité la Suisse allemande, on faisait les deuxièmes semestres avant les premiers, les quatrièmes avant le troisième, et ainsi de suite. Et puis, j'ai très rapidement découvert que, au fond, et ça c'est probablement l'influence de mon professeur de mathématiques, que la médecine qu'on nous apprenait n'était pas très rigoureuse. Et après avoir bien réussi mes examens de premier et deuxième propé, donc à mon troisième année, j'étais voir une des personnalités qui est maintenant décédée, qui m'a énormément marqué, qui était professeur de physiologie de Genève, qui était Jean Posternak. Et j'ai dit à Jean Posternak, j'ai dit, écoutez, ce que je fais là, c'est pas assez scientifique, ça me plaît pas. Et il a eu l'immense sagesse de me dire, Francis, vous venez chez moi pendant 2 ans, travailler au laboratoire. Et en fait, j'ai séché les cours pendant 2 ans à l'université, ce qu'on ne pourrait plus faire maintenant. Et pendant 2 ans, en fait, j'ai fait du laboratoire. En fait, j'avais terminé ma thèse avant d'avoir fait mon diplôme. J'ai fait ma thèse à ce moment-là.
Oui, c'est un parcours assez curieux.
Inhabituel.
Inhabituel. Ouais.
Et dès que ça s'était terminé, je suis parti. La Croix-Rouge cherchait un médecin pour aller en Algérie, juste au moment de la fin de la guerre d'Algérie et au début de l'armistice. Et je suis parti à ce moment-là 6 mois avec le CICR en Algérie, ce qui m'a aussi profondément marqué parce que j'ai visité les prisons du sud algérien. Ça m'a profondément marqué dans ma vie par la suite.
Oui, beaucoup d'horreur là.
C'était et d'injustice. L'horreur et d'injustice et de traîtrise vis-à-vis de la loyauté. Au fond, il y avait beaucoup de ces Algériens qui avaient aidé les Français, qui étaient des gens tout à fait loyaux.
Tous les harkis.
Exactement. Alors, je vous les nommer, c'est exactement... J'ai visité des tas de camps de prisonniers de harkis où on avait l'impression que ces gens-là ne comprenaient tout simplement pas ce qui leur était arrivé.
Ils avaient été fidèles aux Français. Exactement. Les Français les ont laissés tomber. C'est l'une des... Je dirais, c'est l'une des vilainies qu'ont fait les Français dans l'histoire.
Et en fait, si vous voyez à l'heure actuelle, la même chose s'est passée au Vietnam avec les Hmong qui ont dû quitter, qui sont maintenant quelque peu dispersés à travers l'Amérique. Et au fond, j'ai beaucoup appris là.
Oui, sûrement.
Et ensuite, je suis parti à Paris finir mes études. Et là, j'ai rencontré une personnalité tout simplement exceptionnelle. Vous connaissez aussi. J'ai eu la chance d'être pendant 6 mois l'assistant de Jean Bernard.
Jean Bernard, c'est un seul mot. C'était le grand hématologue de l'époque, donc spécialiste des maladies du sang.
Surtout des leucémies des enfants, avec des possibilités thérapeutiques qui étaient très limitées à ce moment-là, mais j'ai appris au point de vue attitude médicale par rapport aux patients, par rapport à la souffrance, j'ai appris grâce à lui, que je voyais tous les jours, énormément. Il aimait bien les Suisses, alors ça tombait bien.
Oui.
Et on est resté très liés par la suite, toujours.
Francis, vous êtes allé aux États-Unis après?
Après ça, je suis parti aux États-Unis. Donc j'ai terminé mes études de médecine, on m'a engagé ici tout de suite en médecine interne, les patrons de là-bas voulaient tout de suite me prendre, et après une année et demie, j'ai demandé de pouvoir partir, j'ai fait juste une année et demie en Suisse, et ensuite je suis parti aux États-Unis.
Et là pourquoi?
Parce que au fond, Jean Posternak, dont j'ai parlé tout à l'heure, et mon autre mentor par la suite, qui était Alex Müller, qui est une personnalité exceptionnelle de la médecine suisse, m'ont très vite fait comprendre que mon idée de devenir simplement praticien quelque part dans le Gros de Vaud n'était pas ce que je devais faire. Et moi, j'étais parti avec cette idée. Et les deux m'ont dit, non, il faut que vous fassiez un parcours universitaire, un parcours académique. Et ils m'ont en quelque sorte mis le pied à l'étrier. Et c'est grâce à eux que je suis parti à ce moment-là aux États-Unis. Et à ma grande surprise, j'ai dû recommencer tout un apprentissage de la médecine à zéro. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que finalement, on roule un peu les mécaniques. Quand on a fait une année ou deux de médecine, on connaît un petit peu les choses, etc. Et là, j'ai tout dû recommencer à zéro. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Alors, est-ce que c'est le choix de la chanson qui vient, enfin, de la
morceau qui vient? Ça tombe juste bien, en effet. J'ai découvert Nina Simone aux États-Unis à ce moment-là. Elle était au début de sa toute grande carrière. Elle était elle chantait beaucoup dans des milieux activistes. Moi, j'étais très proche de ces milieux, pas activistes, mais ces milieux pour une meilleure justice aux États-Unis, où j'ai également médité un peu. Et de ce fait-là, j'ai découvert Nina Simone et j'ai choisi une de ses airs préférés qui s'appelait « I want a little sugar in my bowl ».
Je veux un petit sucre dans mon... café.
Dans mon café ou
dans mon bol.
Ouais, voilà. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. Feel so helpless and I feel so sad. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. Drop a little sugar in my bowl. I ain't fooling. Drop some sugar in my
sur Radio Cité 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois le professeur Francis Walvogel, une sommité médicale et scientifique de notre pays, avec qui nous refaisons le parcours. Alors là, nous partons des États-Unis, vous quittez Boston et vous rentrez à Genève. Comment ça se passe, Francis ?
Oui, alors j'ai découvert beaucoup de choses aux États-Unis. J'ai découvert aux États-Unis d'abord une qualité de formation dans un domaine qui était très peu connu en Suisse, qui était les maladies infectieuses, microbiologie, biologie moléculaire, tout ceci se tenait. On allait de l'éprouvette au patient. Il y avait une attitude très, très positive et très, très compréhensive vis-à-vis des patients aussi. J'ai appris à ce moment-là aussi qu'on pouvait être un bon étudiant et un bon médecin, être un sportif, ce que je ne savais pas d'avant. Donc je me suis
c'est là-bas que vous avez commencé le sport
C'est là-bas que je suis devenu un véritable sportif amateur, certainement.
Parce que nos auditeurs ne savent pas encore, mais on va leur dire que vous jouez beaucoup au tennis.
J'adore le tennis, j'adore le ski, j'adore la voile, et je fais du jogging, etc. Donc je suis devenu un sportif amateur là-bas, ce qui m'a fait...
Accompli.
Surtout, c'était, comme je disais, ça me fait du bien au corps, mais ça me fait surtout du bien à la tête.
Sûrement, voilà. Surtout quand on est plongé dans toutes ces horreurs de l'hôpital et ces douleurs.
Et alors, je suis revenu ensuite en Suisse et là, j'ai poursuivi ma carrière à l'hôpital cantonal ici à Genève, l'hôpital universitaire, et j'ai fini ma formation de médecine interne comme chef de clinique et ensuite j'ai mis en place en quelque sorte des structures qui n'existaient pas, qui est un laboratoire de diagnostic de microbiologie, qui n'existait pas à ce moment-là, une division de maladies infectieuses avec tout ce que ça comportait. Et j'ai fait à ce moment-là ma ma carrière académique ici à Genève.
Alors, je crois que ce département des maladies infectieuses, vous l'avez dirigé de 72 à 86.
C'est
donc
fait.
un grand parcours. Ouais. Alors, je crois que vous avez commencé avec 2 personnes en 72.
Oui.
Et puis, vous avez terminé avec 70.
Oui, vous connaissez bien les chiffres, c'est absolument vrai. Je ne sais pas d'où vous les prenez, mais c'est vrai. C'était une très, très grande structure par la suite. Ensuite, est venu évidemment en 83, est venu le sida. Donc, on a dû développer encore cet aspect-là des choses. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi tout simplement des collaborateurs et des collaboratrices absolument exceptionnels. On est une équipe très soudée. On a énormément publié parce qu'on avait une recherche qui marchait très bien à ce moment-là dans des domaines plus variés. Et on a mis en quelque sorte ces maladies infectieuses genevoises et suisses, je dirais, sur la carte mondiale. J'ai créé à ce moment-là aussi, avec des collègues d'Italie, d'Angleterre et des États-Unis, la Société mondiale maladies infectieuses. On a développé en quelque sorte un réseau mondial de formation qu'on donnait, mettait à disposition des pays du Sud. On a organisé des congrès dans des pays les plus arriérés au point de vue maladies infectieuses
par
à ce moment-là.
Ben
à ce moment-là, on en a fait en Afrique, on en a fait en Asie. Et moi-même, j'étais président de la société pendant 4 ans. Et quand j'étais président, j'ai organisé celui de Rio. On a fait un grand congrès à Rio avec tous les problèmes médicaux de la région du Brésil. Et là, j'ai beaucoup eu la chance de pouvoir visiter le Brésil. Ça m'a profondément marqué aussi.
Oui, ça, c'est un beau pays, un grand et beau pays. Alors, je crois que vous avez quand même aussi une action qui était celle de passer votre savoir à des plus jeunes. Puisque vous avez eu 10 jeunes scientifiques qui ont obtenu le titre de professeur grâce à vos travaux et à l'enseignement que vous leur avez prodigué.
En fait, en maladie infectieuse, j'ai à peu près 12 de personnes qui ont eu le titre de professeur. Et quand j'ai ensuite remigré vers la médecine interne en reprenant la direction d'abord au service de médecine interne et ensuite du département de médecine, ils sont ajoutés à ces 12. J'ai mentoré encore 20 d'autres. Et maintenant, quand je fais la liste, je vois qu'il y a à peu près plus de 30 de mes anciens assistants et chefs de clinique qui sont professeurs.
C'est une fierté, ça, Francis.
C'est pas une fierté, c'est un immense plaisir.
Oui, c'est un bonheur, c'est vrai.
C'est un vrai cadeau.
C'est magnifique. Ouais. Bah, c'est un cadeau mutuel, hein, parce que vous les avez formés, vous leur avez permis de réussir. On est vers quelles années, là? On est vers les années 80?
Oui, à peu près 85, 86. Je touche à peu près à la crise de la cinquantaine, à peu près.
Alors qu'est-ce que c'est? Chez un monsieur, qu'est-ce que c'est la crise de la cinquantaine? Racontez-nous ça.
Il y a la crise privée, dont on ne va pas forcément parler ici,
mais
il y a la
part dont
on peut en parler aussi. Il y a des crises internes, j'ai eu des soucis familiaux à ce moment-là, et puis en même temps, je me suis rendu compte que quelque part il fallait faire quelque chose de neuf, que j'avais au fond arpenté un domaine qui m'avait intéressé et que si je continuais à arpenter ce même domaine encore une 15 années, j'allais donner un petit peu dans de la routine. Et au fond, ça n'a jamais été mon style et je me suis dit, tu changes toujours tous les 10 et 15 ans, ben, le moment est venu maintenant pour voir ce que tu peux faire d'autre. J'étais à ce moment-là directeur du département de médecine, c'était le plus grand département de médecine de Suisse en quelque sorte, il y avait plus de 1000 collaborateurs, à ce moment-là, collaboratrices à ce moment-là. Il y avait un travail administratif, surtout un travail d'organisation, de motivation. Je veux dire, je crois que la chose la plus importante dans les grandes structures, c'est d'arriver à motiver les gens et de leur faire confiance. On en reparlera peut-être à la fin. Et là, j'ai eu de différentes offres qui me sont venues. À ce moment-là, j'étais très proche de Jonathan Mann, le directeur à l'OMS du SIDA. Il m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai essayé un petit peu un certain temps et puis les choses n'ont pas débouché véritablement sur un programme qui était robuste. Il avait des soucis aussi à l'intérieur de l'OMS à ce moment-là. Et ensuite, comme vous savez, il a dramatiquement disparu dans le vol Swissair 111 qui s'est abîmé au large de Halifax. Et à ce moment-là, on m'a demandé d'entrer dans le Conseil suisse de la science, qui était l'organe consultatif du Conseil fédéral en matière de science. Et ça m'a bien intéressé parce que à ce moment-là, je me rendais déjà compte que la médecine était trop fragmentée, qu'elle n'était pas assez liée avec les autres domaines. Et ça m'a ouvert l'esprit sur des historiens, sur des sociologues, sur des philosophes. Et j'étais vice-président du conseil, je suis resté là-bas plusieurs années jusqu'à ce que Madame Dreyfus, un jour, vienne me visiter pour me demander de reprendre des écoles polytechniques, qui étaient en crise à ce moment-là.
On va en reparler après écouter un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors là, on va écouter quelque chose qui a été composé en 1928, qui s'appelle Verklärt die Nacht de Schönberg. C'était composé d'abord pour des instruments à cordes de chambre. Il en a fait une version orchestrale, c'est celle qu'on va écouter. J'aime beaucoup cette pièce d'Arnold Schönberg parce que le début du dodécaphonisme. Donc, c'est le début d'une nouvelle révolution. Et la musique avance comme la science, avance toujours par des bonds. Et des révolutions. Il y a une base révolutionnaire à la musique où à un certain moment tout se décompose parce qu'on recompose de façon différente. Et ça, on ne pourra pas l'entendre en entier parce que c'est un long morceau. C'est un morceau qui est fascinant parce qu'on se rend compte qu'on est en train de perdre les tonalités habituelles qu'on connaît en musique.
Vous êtes sur Radio Cité 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec le professeur Francis Walvogel, professeur de médecine, sommité scientifique international. Nous avons beaucoup de chance, Francis, de parler avec vous aujourd'hui et de découvrir ce parcours foisonnant parce que vous n'êtes pas seulement un grand médecin, vous êtes un grand scientifique et puis vous avez participé à tant de conseils, à tant de cercles de réflexion, Mon Dieu, j'ai du mal à faire la liste. Alors, vous allez m'aider. Vous allez dire pour nos auditeurs que vous avez, en 1995, été nommé à la direction des deux écoles polytechniques du pays. Ça, c'est incroyable. C'est quand même un couronnement.
Disons, c'était une grande surprise. Pour vous dire la vérité, je savais que les écoles polytechniques étaient à ce moment-là en crise. Je savais que l'ancien président avait démissionné. Je savais qu'il y avait des difficultés à restructurer tout cela. Et un jour, j'ai eu un téléphone de Ruth Dreyfus, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, présidente après, qui m'a demandé si elle pouvait venir me voir pour discuter du futur des écoles polytechniques. On s'est vus à Genève. Et puis, donner deux, trois idées, comment ce que je voyais, comment ce que des structures académiques de cette taille-là pouvaient être gérées et dirigées. Et puis, quelques jours plus tard, elle m'a retéléphoné et puis elle m'a dit « j'aimerais vous revoir ». Et on s'est vu un matin à 8 heures dans mon bureau et je ne comprenais pas très bien pourquoi est-ce qu'on se revoyait, jusqu'à ce qu'au milieu de la discussion, elle m'a dit « écoutez, j'ai bien réfléchi, j'aimerais que vous repreniez les écoles polytechniques ». Alors, je peux vous dire que ça a été un grand...
Un choc. On est en 1995.
Alors... Tout à fait. Oui. Et puis, je lui ai dit « je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas quitter la médecine ». Je reviens à ce que je vous avais dit auparavant au sujet de la médecine. Je pense que
votre
je serais...
Votre vraie vocation.
C'était ça. Et je lui dis, mais elle m'a dit, mais je vous prends autant que vous êtes capable de me donner. Et je vous donne un vice-président qui vous fera une partie du travail. Et c'était amusant. Et je lui dis, mais vous avez déjà choisi le vice-président? Elle m'a dit, oui, j'ai une idée en tête. Et je lui dis, est-ce que c'est Stéphane Bieri? Alors, elle était surprise, mais comment est-ce que vous savez? J'ai dit à personne. J'ai dit, mais parce que quand j'essaie de voir, Stéphane Bieri était à ce moment-là au Conseil Suisse de la Science, avait été au Conseil Suisse de la Science avec moi. Et c'était un homo faber, aurait dit Max Frisch. C'était quelqu'un de très, très organisé, très, très, très méthodique. On s'était bien entendu. En fait, on était copain de collège d'Arau avant. Et elle m'a dit, oui, c'est lui. Alors, on s'est vu à Lausanne avec Stéphane Bieri le 27 décembre, je me rappelle toujours. Et on a dit, on s'embarque dans cette histoire ensemble. Et on a eu une fantastique aventure qui a duré pratiquement 10 ans. Lui est parti un petit peu plus tôt que moi. Et pendant cette période, j'ai d'abord dû recréer de la confiance. Ça, j'avais un petit peu l'habitude de cela. Donc ça n'a pas été trop, trop, trop difficile. Et puis ensuite, développer les nouveaux projets, restructurer l'ensemble. Et à ce moment-là, surtout, et c'est une chose qui m'a pris beaucoup de temps, mais qui me fait un énorme plaisir, restructurer les PFL. Et en fait, six mois, j'ai pratiquement perdu le stylo de ma main le jour où Madame Dreyfus m'a offert la présidence des écoles polytechniques. Quand j'ai dû trouver un successeur au professeur Badou à Lausanne, j'avais une liste de 45 candidats. J'ai téléphoné à Patrick Epicher, j'ai dit « je veux vous voir, je pense que vous voyez à ce moment-là ». Je l'ai invité à manger à Champel, ici à Genève.
On est en 2004, là.
Un peu plus tard. 2008 à peu 2008. Près. Et puis, j'ai dit à Patrick « est-ce que vous seriez prêt à reprendre l'école polytechnique de Lausanne ». Et ce n'était pas le stylo qui tombait de sa main, mais c'est sa fourchette.
Vous étiez donc à table.
On était à table, on était au restaurant. Et puis, quelques jours plus tard, il m'a téléphoné et puis il m'a dit « mais vous m'offrez au fond l'occasion de ma vie ». Et ensuite, il a fallu passer à travers tous les processus de nomination, etc. Mais le conseil que je tenais très bien à ce moment-là m'a suivi. Et ensuite, on a eu une année ou deux un peu difficiles avec Patrick au départ.
Pourquoi ?
Parce que Patrick, très rapidement, a voulu restructurer encore plus vite que ce que je le voulais. Et puis, il y a eu des menaces de départ, il y a eu des menaces... Enfin, c'était une période extrêmement agitée. Et je dois dire, là, je n'étais pas tous les jours sûr que je garderais ma place.
À ce point-là ?
Ah oui. Mais on ne fait rien dans la vie. Sans prendre ses risques.
C'était vrai.
Le risque que j'ai pris. Et on a mis en route à ce moment-là ensemble aussi, c'était la deuxième chose qui, pendant cette période, la réorganisation en quelque sorte de l'arc lémanique au point de vue académique, le départ de la physique, de la chimie, des mathématiques, de l'Université de Lausanne vers les PFL, les projets communs avec l'Université de Genève, les développements des projets aussi au point de vue imagerie médicale, etc. Et ça, j'en suis très, très, très content parce que c'est un début, à mon avis, de ce que le paysage universitaire suisse sera demain.
On va en parler tout à l'heure. On écoute Concert au Japon.
Oui, alors là, on est dans un domaine totalement différent. C'est ma petite tendance jazzy. J'aime beaucoup le jazz et j'aime surtout le jazz dans tout ce qu'il a réussi à développer. Au fond, il reste extrêmement vivant parce qu'il a constamment changé. Et là, on va écouter un morceau d'un tout grand pianiste qui est Thelonious Monk.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec le professeur Francis Walvogel, une immense sommité internationale en médecine, en sciences. Francis, en 1995, Madame Ruth Dreyfus vous demande donc de prendre la tête des deux écoles polytechniques du pays. Vous allez aussi être à la tête des quatre instituts fédéraux de recherche. C'est tant, je dirais, tant de casquettes pour un seul homme.
Oui, c'était peut-être un peu beaucoup.
Non, vous en êtes très très bien sorti.
mais il faut aussi bien se rendre compte, je veux dire, le travail immense qui est fait en dessous de vous, par vos collaboratrices, par vos collaborateurs, ce sont des immenses pyramides. Les institutions ont une grande autonomie, je veux dire, il ne s'agit pas d'aller régler la peinture des corridors. J'ai aussi appris là, à mes propres dépens, de ne pas me mêler de choses trop opérationnelles. C'est intéressant, du reste, dans ces structures aussi, on commence à s'occuper de choses qui deviennent opérationnelles, on les paralyse. On joue un rôle néfaste, en quelque sorte. Donc, j'ai rapidement compris que le rôle...
Fallait déléguer.
Fallait énormément déléguer et puis rester uniquement dans les grandes options stratégiques.
Alors, quelles étaient vos réalisations ou collaborations majeures dans cette époque-là? On parle entre 1995 et 2004.
Je dirais ce qu'on a réussi à réaliser pendant cette période-là, c'est plusieurs choses. D'abord, une libération de tout le domaine des EPF de l'administration fédérale. On a éloigné, en quelque sorte, un peu comme avec les CFF, avec les autres grandes régies, on a sorti les EPF du giron immédiat de la Confédération, ce sont leurs écoles.
Autonomie. Donc.
Et leur donner, en quelque sorte, une autonomie avec ce qu'on appelle des mandats de prestation. C'était les premiers mandats de prestation de Suisse. On a refait la loi, ce qui était un grand travail. Et je suis assez content qu'on a eu des tellement bonnes relations à ce moment-là avec les différentes commissions du Parlement qu'on a réussi à faire passer la nouvelle loi sur les EPF, tant au niveau du Conseil national qu'au niveau du Conseil des États, à l'unanimité. Les deux
fois. Oh, ça, c'est magnifique.
C'est dans le domaine universitaire.
Ça aussi, c'est un exploit.
Ensuite, on a développé la Swiss Light Source. Donc
qu'est-ce que c'est que la Swiss Light Source? Il faut expliquer ça à nos auditeurs.
Alors, c'est un faisceau d'électrons que vous faites courir autour, comme si c'était dans une marmite. Il tourne en quelque sorte à l'intérieur de la marmite à toute vitesse. Et à un certain moment, vous déviez ces faisceaux quand les électrons sont suffisamment accélérés. Et quand vous faites dévier ces faisceaux comme des phares de voiture, ils émettent en direction direct, longitudinal, ils émettent un faisceau de puissance extrême. Mais ça devient à ce moment-là des super rayons X, si vous voulez, des rayons qui pénètrent la matière de façon extrêmement détaillée. On a développé ceci à Würenlingen dans un magnifique cadre. Ça, c'est une jolie réalisation. La loi sur les EPF, l'autonomie était une deuxième réalisation, à mon avis, importante. Et puis la troisième, certainement, c'était la réorientation de l'EPFL vers les sciences du vivant et vers des techniques modernes, en partant un tout petit peu des notions classiques de l'ingénieur et puis l'arc lémanique. Il y avait quatre réalisations.
On va parler de l'arc lémanique, si vous voulez bien, Francis. C'est important que vous expliquiez ce que c'est.
Alors, au départ, l'idée, c'est que vous avez sur 60 kilomètres entre l'Université de Genève, le CERN, l'EPFL et l'Université de Lausanne, vous avez probablement une des plus grandes densités scientifiques de la planète. On ne s'en rend pas compte. Et une étude qui avait été faite à peu près à cette période-là, qui m'avait beaucoup intéressé, avait montré que si on réunissait toutes les universités qui étaient à 60 kilomètres de distance les unes des autres, en ce qui concerne l'Europe, Genève, Lausanne venaient en quatrième position ou en cinquième position. Et c'est ça qui m'a donné naissance à l'idée de dire, quelque part, il y a un effet d'échelle à trouver ces prochaines années. Il faut garder les proximités d'enseignement, ça c'est tout à fait nécessaire. Mais quelque part, on ne peut plus permettre finalement de fragmenter les sciences, comment on les fragmente partout et ailleurs. Et l'idée à ce moment-là, ça a été de voir quelles étaient les possibilités de mise en commun dans cette région-là. J'ai commencé à demander un premier rapport à l'Université de Genève, de Lausanne et à l'EPFL en demandant, faites-moi un scénario avec 10% de réduction ou 20% de réduction des effectifs. Et ça, c'était simplement pour favoriser en quelque sorte une réflexion sur qu'on pouvait faire. Voilà. Et à la suite, ça donnait naissance à ce que vous connaissez bien maintenant dans les neurosciences, ça donnait naissance à la réorganisation de l'Université de Lausanne, à tous ces axes de communication qui existent à l'heure actuelle. Mais je dis toujours, et je m'empresse de le dire là aussi, quand on a un échec, il y a en général plusieurs pairs. quand il y a une réussite, il n'y a qu'une seule mère. Dans cette réussite, il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Il y a eu pas mal d'échecs, mais en fin de compte, il y a une magnifique réussite. Et je pense que c'est que le début d'un développement qui va se faire dans cet arc, qui est un arc, entre parenthèses, absolument extraordinaire sur la planète.
C'est vrai. On va écouter Jean-Sébastien Bach.
Oui, alors on est près de Pâques. Et j'ai choisi le début de la Passion selon Saint Matthieu essentiellement parce que on parle toujours beaucoup du beat dans le jazz, mais on reconnaît toujours chez Bach un rythme de base qui a quelque chose d'extraordinairement solennel et qui est terriblement envoûtant. Alors j'aimerais qu'on se concentre pas seulement sur cette magnifique musique polyphonique, mais je pense que sur ce rythme que vous allez entendre, c'est le début de la Passion selon Saint Matthieu. On en entendra juste le début, mais c'est ce que j'appelle le Bach beat qui m'intéresse ici.
Vous êtes sur Radio Cité 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec le professeur Francis Walvogel. Francis, vous avez encore une fois tant de casquettes. Vous avez dirigé les deux écoles polytechniques, je le répète, les quatre instituts fédéraux de recherche. Et puis, vous avez créé une fondation internationale favorisant le dialogue sur la connaissance. Ça, c'est votre grand bébé. Hein. C'est le bébé de ces dernières années, ça.
Oui, Viviane, ça, c'est vraiment mon bébé actuel. En deux mots, les années de médecine m'ont toujours frappé. Plus j'avançais dans ma carrière, à quel point ce monde était tout simplement foisonnant de spécialistes, évidemment tous capables dans leur domaine, mais qui manquaient totalement de dialogue les uns avec les autres. Et une partie de mon travail consistait toujours à ramener en quelque sorte les brebis dans le troupeau pour qu'elles communiquent les unes avec les autres. Je dois dire avec un succès que je qualifierais rétrospectivement d'assez médiocre. Je n'ai pas réussi de le faire aussi bien que ce que je voulais. Pourtant, c'était pour moi une chose absolument essentielle.
Ça a été créé en quelle année? française.
Et alors, quand je suis parti à la retraite, j'ai créé en 2004 le Forum des Savoirs ou le World Knowledge Dialogue. Mais je dois dire que le père, il y avait souvent plusieurs pères, le père de cette idée, c'est André Hurst, l'ancien recteur de l'Université de Genève, helléniste qui, un jour, m'a appelé et m'a dit « Écoute, moi, j'avais mis ça dans mon plan rectoral, je ne peux pas le réaliser, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le réseau, est-ce que tu m'aiderais à le faire ?» Et au fond, c'est tombé juste au bon moment parce que j'avais terminé mon activité à l'hôpital.
Et puis, vous aviez laissé les écoles polytechniques dans les mains de Patrick Ebischer.
Patrick Ebischer. Et puis, ensuite, à Zurich, de Ralph Eichler, qui est venu plus tard aussi. Et puis, j'ai dit, oui, ça m'intéresse. Et en fait, j'ai essayé à ce moment-là de creuser un tout petit peu. Je me suis rendu compte de trois choses. La fragmentation en médecine, et ça, je le savais déjà, non seulement c'est une erreur, mais ça produit des erreurs.
C'est-à-dire
il faut le savoir, il faut le dire. Chaque spécialiste en action sur un corps humain qui n'est pas composé en quelque sorte de parts, mais qui est un tout.
Oui, qui a des interactions.
Et s'il n'y a pas un dialogue, il peut y avoir des erreurs, il peut même y avoir des catastrophes. Et ce qui est intéressant, j'en ai vécu de ces catastrophes. Et quand on reprend avec les spécialistes, chacun dit « mais moi, dans mon domaine, j'ai fait juste ».
Mais Francis, ça remet en selle le généraliste, qui est alors, aujourd'hui tellement décrié, qui n'a pas le vent en poupe, malheureusement.
Alors, paix aux bagarres actuelles, je pense que le généraliste est le futur gardien de la qualité de la médecine à travers cette planète, dans les pays industrialisés. J'y travaille aussi sur un projet dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais un projet qui va prendre naissance ici à Genève ces prochains temps.
Alors écoutez, je vous demanderai de nous faire l'amitié, ainsi qu'aux auditeurs de Radio Cité, de revenir nous en parler, parce que je pense que ce problème du médecin généraliste, c'est central.
Absolument.
C'est central pour la santé, c'est central pour l'équilibre, pour les familles. Enfin, c'est l'un des drames de l'époque, le mépris du médecin généraliste est une catastrophe.
Absolument. Alors ça, c'était la première constatation. La deuxième constatation, c'est que cette fragmentation touche toutes les sciences. Et troisièmement, qu'elle touche toutes les sciences, et c'est probablement une évolution qui s'est faite ces trois derniers siècles, et que finalement, aucun des grands problèmes de la planète et aucun des grands problèmes de notre société ne serait résolu tant qu'on garde ce type de fragmentation. Et c'est ça qui m'a fait créer cette fondation qui s'appelle World Knowledge Dialogue avec André Hurst et qui s'appelle donc le Dialogue des Savoirs. Nous avons fait deux séminaires de toute première qualité à Grand Montana en 2008 et l'autre en 2006 avec des personnalités exceptionnelles. Et je suis venu, grâce à cela, ami de plusieurs personnalités exceptionnelles à travers le monde qui voient les choses de la même façon. Edgar Morin en France, Ed Wilson aux États-Unis, Jerry Edelman sur la côte ouest des États-Unis, etc. Et notre idée, c'est au travers de ces séminaires, de sensibiliser en quelque sorte le monde intellectuel vers une meilleure intégration des problèmes des problèmes qui touchent la violence, qui touchent la violence urbaine, qui touchent l'accès à l'eau, qui touchent la médecine, comme vous citiez tout à l'heure, qui touchent le climat et ainsi de suite, parce qu'on est tous convaincus qu'aucun de ces domaines, aucun de ces problèmes sera réglé de façon individuelle par un spécialiste.
Pourquoi est-on arrivé à ce cloisonnement néfaste ?
Écoutez, il y a toute une série d'explications qui nous mèneront très loin, mais en deux mots, là je pourrais passer des heures là-dessus, parce qu'on a beaucoup
étudié le
problème.
Vous allez revenir, Francis. Nos auditeurs ont compris qui vous. Vous allez revenir.
Et en fait, c'est une évolution de la philosophie et de l'épistémologie de la recherche. Je m'explique. Depuis trois siècles, l'expérience, l'expérimentation au laboratoire est devenue le point clé du progrès scientifique. Mais toute expérimentation au laboratoire n'est rien d'autre qu'une simplification. C'est une simplification outrancière de ce qui se passe à l'extérieur, mais qui donne des résultats très probants. Et de ce fait-là, l'explosion des sciences de ces trois derniers siècles est due à l'application de la méthode expérimentale à toutes les sciences naturelles. Mais ensuite, il faut recomposer le jouet. Et c'est là où ça pêche. Le jouet n'est pas un assemblage des parts qu'on a étudié auparavant.
C'est pas du Lego.
Et là, on entre dans la théorie de la complexité. Et je pense que c'est la théorie de la complexité et les nouvelles compréhensions des systèmes complexes qui vont nous aider. Et c'est ça qu'on a traité à cran. On en a fait un premier livre, on est en train de faire un deuxième livre.
Et maintenant, vous avez un livre qui va sortir bientôt aussi.
Alors ça, c'est encore un autre, oui.
Encore un autre. Mais vous en avez écrit combien?
J'ai écrit évidemment pas mal de livres médicaux, ou été éditeur de livres médicaux, mais les deux livres auxquels je tiens beaucoup de ces derniers temps, donc c'est ces livres sur justement ces forums de cran. Et l'idée, c'est maintenant, et je suis en négociation, et ça a bien avancé, avec plusieurs universités de romande qui vont reprendre le projet pour l'intégrer en quelque sorte dans leur curriculum au point de vue recherche. Et Cran Montana sera à ce moment-là une expression, une sorte de vitrine de tout le travail qui se fait dans le domaine de l'interdisciplinarité dans les universités romandes. Le livre, c'est encore autre chose. C'est un livre qui est intitulé Dialogue sur la médecine de demain. Et c'est aussi un de mes bébés de ces derniers temps que j'ai écrit avec un de mes très, très grands amis, qui est Pierre Dominicé, qui était professeur à la faculté de psychologie, théologien d'abord, ensuite psychologue, sociologue aussi à ses heures. Et nous avons essayé de définir avec bienveillance les 6 ou 7 problèmes principaux que nous voyons dans la médecine actuelle. Et le livre, au lieu d'être écrit de façon péremptoire, il est écrit sous forme d'un dialogue. Il va être publié par les presses universitaires de France. Enfin, il est en impression dans les presses universitaires de France à l'heure actuelle.
Alors, on va redescendre un tout petit peu sur Terre parce qu'il nous reste très peu de temps. Il y a tellement de choses à dire, Francis. On va quand même redescendre sur Terre parce que je voudrais quand même que vous montriez la partie humaine du personnage que vous êtes. Vous aimez plein de choses, vous avez plein de hobbies. Vous n'êtes pas seulement cet immense scientifique et homme de réflexion. Vous êtes aussi un monsieur qui aimait le sport, qui aimait les belles choses de la vie.
Oui, je suis assez épicurien, en fait.
Et tout ça est dit avec une lueur dans l'œil.
J'aime toutes les expressions humaines. J'aime la musique, j'aime la peinture, j'aime la photo, j'aime les amis, j'aime la famille. Au fond, je suis un petit peu un exubérant. Et j'aime cette vie un peu exubérante de pouvoir faire tout ceci. Je pense que c'est une sorte de grâce qu'on reçoit, c'est une sorte de don que l'on reçoit. Et si on peut, grâce à ça, faire rejaillir une partie de ce qu'on fait sur les autres, je pense qu'on a à ce moment-là, on se lève le matin avec le sourire aux lèvres et on se couche le soir aussi avec le sourire aux lèvres.
C'était la raison pour laquelle vous êtes entré en médecine, je crois. C'était
sûrement.
Faire du bien autour
sûrement,
de vous.
Sûrement.
C'est un magnifique parcours, Francis. On aurait voulu avoir des heures et des heures encore de discussion avec vous. Mais vous allez revenir prochainement à Radio Cité, je vous le promets. Merci beaucoup, beaucoup de ce temps que nous avons passé ensemble. Je suis sûre que vous aviez des millions de choses à nous dire encore. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.
Merci Viviane, volontiers, mais je pense qu'avec un peu moins de superlatif de votre part à mon égard.
Ah non, je suis très impressionnée, je le suis rarement. Et on remercie aussi José Musetti, notre réalisateur. Et puis on écoute encore un petit peu de musique.
Voilà, on va finir de nouveau par du jazz, par une personnalité que j'ai côtoyée une ou deux fois, que j'ai trouvé exceptionnelle. Je ne suis pas un fanatique de trompette, mais Miles Davis était tout simplement un personnage absolument hors du commun. J'ai choisi un morceau qui s'appelle Sweet Sure. En fait, il existe en tout cas sous 3 différentes formes, les formes précédentes, il parle beaucoup et de façon tout à fait intéressante, il parle aussi avec Leonard Bernstein, qui apparemment il avait pris un jour à une de ses répétitions. Là, c'est moins interrompu, mais c'est une très très belle pièce qui s'appelle Sweet Sue.